Nous venons de le voir, Sartre disait donc « le faire, c'est les autres ». Ce à quoi un autre philosophe de son temps, René Girard, a répondu « chacun de nous se croit seul en enfer et c'est ça l'enfer ». Ce que suggère ici notre deuxième philosophe, c'est que chaque être humain croit repérer chez l'autre ou en l'autre une énergie qui lui fait défaut à lui, une qualité dont il serait dépourvu, des succès qui lui sont inaccessibles, voire une séduction qui le renvoie irrémédiablement à sa propre disgrâce. En d'autres termes, il nous arrive d'envier cet autre que nous côtoyons parce que nous pensons que lui n'est pas seul. Dans notre esprit, ça ne fait donc aucun doute, nous sommes en enfer, tandis que l'autre échappe quelque part à cette malédiction. Alors, cette conviction a beau être totalement erronée, et notre infortune imaginaire, elle suffit à nous tenir en enfer. Tant que dans notre tête, nous avons cette croyance, on peut raconter ce qu'on veut, ça ne changera strictement rien à notre état d'esprit. Ce constat fait, il faut comprendre que dès lors, et nous avons du mal, je pense, à vivre ça, confesser une peur, avouer une blessure, reconnaître notre fragilité revient à tendre immédiatement, instinctivement, une main à l'autre. C'est le rejoindre dans sa fragilité et sa faiblesse. C'est lui rappeler que nous sommes, dans notre humanité, faits de la même nature. Lui permettre de s'extirper donc de ce qu'il prend en ce qui le concerne pour un exil. Donc l'autre a besoin de nous pour lui faire comprendre et entendre que nous sommes de la même nature que lui et que nous vivons plus ou moins les mêmes choses que lui, même si ça peut être à des périodes différentes. Alors, je sais bien que tout ça est une évidence. Hein ? Oui, non ? Mais c'est une évidence que dans l'histoire de l'Église, on a, me semble-t-il, un peu perdu de vue. On a souvent divisé le peuple chrétien entre des pseudo-super-spirituels et puis d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Mais les pseudo-spirituels ne l'étaient que par le regard de l'autre. C'est toujours les autres qui vous considèrent pour ce que vous êtes en apparence. Ce n'est pas très compliqué de se faire passer pour quelqu'un de super spirituel. Il suffit de ne jamais parler de vos problèmes, de ne jamais dire à l'autre que vous souffrez autant que lui, de vous faire passer pour ce que, en définitive, vous n'êtes pas. Parce que l'Église a été créée par le Christ sur une base qu'on oublie souvent, c'est que l'Église n'est constituée que d'hommes et de femmes pécheurs, des êtres fragiles. Des êtres qui doivent se battre tous les jours avec l'aide de Dieu pour devenir ce que Dieu attend qu'elles deviennent. Alors, est-ce que c'est le péché de l'Église qui est un problème ? Moi, je ne pense pas. Je pense que le problème de l'Église, c'est justement que nous n'arrivons souvent pas à parler de ce que nous vivons, à partager vraiment ce que nous ressentons. Notre problème, c'est que souvent, et parfois c'est la culture de l'Église qui nous pousse à ça, nous faisons semblant de ne pas avoir de problème. Alors, je sais bien que nous sommes toujours très à l'aise avec les témoignages des personnes qui nous disent qu'avant, leur rencontre avec Dieu, leur vie est une catastrophe, et qu'une fois qu'elles étaient venues à Dieu, c'était merveilleux. Ça, on a l'habitude, et ça nous fait du bien, etc. Même si nous sommes venus à Dieu il y a 25 ans, et qu'aujourd'hui, notre vie est plutôt compliquée, c'est pas grave. On aime bien réentendre ça, et c'est pas mal. Hein ? Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ça veut simplement dire que nous aimons les histoires qui finissent bien. Nos histoires ont tendance à s'éterniser à un certain moment. On aime bien le côté « j'avais un problème et maintenant j'ai rencontré Dieu et ça va beaucoup mieux ». Seulement voilà, imaginez que vous alliez chez un psy et que vous lui disiez « je ne veux plus parler que des problèmes que j'avais et que je n'ai plus ». Il est hors de question que vous m'interrogiez sur mes problèmes actuels, je serais trop embarrassé, j'aurais trop peur que vous me rejetiez. Moi, je ne suis pas psychologue, mais je pense que le psy dirait « mais qu'est-ce que vous faites là alors ?» si vous ne voulez pas parler de vos véritables problèmes. Pourquoi quelqu'un irait voir un conseiller pour tenter de le convaincre qu'il n'a pas besoin d'un conseiller ? Pourquoi quelqu'un fréquenterait une église pour tenter de convaincre les gens qui en font partie qu'il n'a pas besoin d'une église ? Dans un livre que j'ai lu il y a quelques années, un jeune pasteur expliquait qu'il faisait partie d'un groupe de maison dans son église, un groupe d'hommes, c'est très à la mode, on sert par les femmes, on sert par les hommes, on sert par les enfants, les bébés, enfin soit, on sépare quoi. Je ne sais pas très bien sur quel fondement biblique ça repose, mais peu importe. Donc ce pasteur explique, j'étais jeune pasteur dans une nouvelle église et je fais partie d'un groupe d'hommes et ça se passe super bien. On va au cinéma ensemble, on va se faire des restos, enfin ils ont une vie sympa et puis ils discutent quand même de leurs problèmes spirituels, leur rapport aux choses, tout ça, ça se passe bien. Jusqu'à un jour où, le soir de leur rencontre, il y en a un qui manque à l'appel, il y a un gars qui n'est pas là. C'est des semaines plus tard qu'ils apprennent que le gars avait une addiction au jeu, qu'il vient de se faire virer de son boulot, qu'il a des dettes jusqu'au-dessus de sa tête, que sa femme l'a plaqué, qu'il est quasi SDF. Et tous ces gens qu'il fréquentait depuis des années n'en avaient même aucune idée. C'est là que le pasteur s'est dit, on a un léger problème. C'est que ce groupe ne permet pas, peu importe, hein, je ne dis pas que c'est facile, hein, que l'animation du groupe, la dynamique ne permet pas que les gens qui ont véritablement un problème puissent l'exprimer, et l'exprimer sans se prendre un coup de bible sur la tête aussi. Ça, c'est parce que ça fait quand même mal. Ça dépend de la taille de la bible. Hein, mais les coups de bible, ça fait toujours mal. Donc une question, me semble-t-il, très judicieuse est venue à ce pasteur par après. Il a dit « Jusqu'à quel point mon besoin de faire semblant d'aller mieux que je ne vais vraiment contribue-t-il à créer une culture de la superficialité dans ma vie et dans la celle de mon Église ?» Si je fais semblant, ça va avoir un impact sur la culture du groupe, forcément. Les « comment tu vas ?»« Ah, mais ça va bien. » L'avantage, c'est que ça prend 3 secondes, hein, mais voilà. Donc ce pasteur finira par dire que la seule chose dont il soit sûr, c'est que ce groupe d'hommes aurait dû être un lieu de plus grande sécurité affective qu'il n'avait été. Il fallait changer quelque chose. Donc à l'analyse, nous n'avons, en ce qui me concerne, hein, aucun problème à dire à notre médecin que nous allons le voir, que nous avons un problème que médical, que notre corps a un problème. Je pense que nous n'avons, aucun d'entre nous n'a un problème à aller chez son garagiste pour dire « ma voiture a un problème ». Hein, c'est le principe. Alors dites-moi pourquoi les pêcheurs que nous sommes ne pourraient-ils pas dire à d'autres pêcheurs qu'ils ont un problème ? Donc si je veux que Dieu ou n'importe qui d'autre aime le vrai moi, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, et accès à ce vrai moi, et pas à un moi imaginaire, celle ou celui que je suis réellement, je vais devoir travailler à être vrai. Les autres vont m'aider, mais je vais devoir prendre des décisions qui vont me permettre d'être vrai. Alors, en réfléchissant à ça, j'ai essayé de prendre nous sommes protestants, hein. J'ai essayé de trouver des exemples bibliques de ce que je suis en train de raconter. D'habitude, en théologie, on fait l'inverse, hein, mais enfin, vous me pardonnerez cette petite entorse aux règles de l'exégèse. Le roi David a été, de l'aveu même de la Bible, le plus grand roi d'Israël. Vous allez me dire, avec toutes les cloches qui ont suivi, c'est pas étonnant, hein, ça va pas être payé. Mais bon. Mais je rappellerai quand même qu'il était polygame, qu'il était un père, il a été un père catastrophique. Il a convoité la femme d'un autre homme, comme il a adultère avec elle, a tenté de tromper le mari de celle-ci pour lui faire endosser la paternité de l'enfant qui allait venir. Et finalement, il l'a fait assassiner et a caché son crime pendant plus ou moins 1 an. C'était un menteur. Je critique pas David, hein, je juge pas David. Je me contente de relater les faits. C'était un menteur, un adultère et un meurtrier. Mais moi, j'ai pas fait mieux. Et je pense qu'il ne serait venu à l'idée de personne en Israël à l'époque de se prendre avec un bracelet, comme on a fait à une certaine époque dans les églises, hein, portant la mention « Qu'est-ce que David ferait à ma place ?» Hein ? Pourtant, voici ce que la Bible dit de David, cette même Bible qui nous apprend toutes ces choses terribles sur son compte que je viens d'énumérer. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il a destiné à être le chef de son peuple. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Donc la question qui nous est posée par le cas David, et à laquelle nous allons tous devoir un jour ou l'autre répondre, est celle-ci. Est-il possible pour un homme de se débattre aussi intensément dans le péché, avoir autant de problèmes à obéir à Dieu, et en même temps, comme il a souvent exprimé dans beaucoup de psaumes, se languir de Dieu ? Je suis en dessous de tout, mais j'ai quand même besoin de toi, forcément. Est-ce que les deux pôles sont conciliables ? Ben, la réponse est oui, parce qu'on aura toujours ces deux pôles dans notre vie. Alors, commencez pas à me tuer des gens, hein, si c'est possible. C'est pas que ça me dérange fondamentalement, mais l'accès aux prisons est de plus en plus compliqué en Belgique. C'est surtout pour ça. Hein. Lorsque j'étais jeune chrétien, c'était hier, j'ai entendu un responsable chrétien, justement, donc un ancien de l'Église de l'époque, parler de 2 grands péchés qui minaient sa vie spirituelle à l'époque. Alors moi, qui avais tant de problèmes à faire ce que Dieu me demandait, qui vivais encore une vie de bâton de chaise, je me suis dit « Oh, Là, ça, je vais écouter ce qu'il va dire, parce que ça, ça m'intéresse. Il a des problèmes, lui aussi. Oh, merci Seigneur. C'est peut-être les mêmes que moi. Vous pouvez toujours rêver. Alors, il a tourné autour du pot pendant je ne sais plus combien de minutes, comme ce que je suis en train de faire, en fait. La même chose. Hein. Et j'étais déjà vraiment à l'écoute en me disant, ce gars a du courage. Quoi. C'était le premier que j'allais entendre me dire, voilà, j'étais vraiment des problèmes dans ma vie. Donc, premier problème de ce gars, c'est qu'il n'avait pas été assez courageux pour partager sa foi la semaine d'avant. Il était avec un gars, il avait l'occasion de parler de Dieu, il n'a pas fait. C'est vrai que ce n'est pas bien. OK ? Bon, ça ne m'a pas convaincu. Allez, passe au deuxième, parce que là, franchement, le deuxième truc, où avec une tête de circonstance, il a dit « Oui, moi, je suis miné parce que parfois, quand je prie, mon esprit vagabonde. » Et en entendant ça, en tant que jeune chrétien, je me suis dit « C'est tout ce qui ne va pas dans ta vie ? C'est tout ?» Parce que ces deux-là, je les coche aussi. Hein, moi, ces deux trucs que tu viens de dire, je les coche. Mais moi, je coche des centaines de trucs à côté. Hein. À l'époque, hein, je vous rassure, hein, calmez-vous. J'en ai bien supprimé deux, trois avec les deux dieux depuis. Hein. Je suis un peu lent de nature. Hein. Donc, je pense qu'il faut être sérieux. Le problème avec ce genre de témoignage, c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est que qu'est-ce que ça laisse comme espoir pour ceux en bas de la chaire, hein, parce qu'avant, on montait sur les estrades, qui entendent ça et qui se disent « Mais moi, c'est pire que ça, quoi. Mes problèmes sont bien pires que ça. » Il y a une femme, une romancière et écrivaine. Vous avez remarqué qu'en écrivain, il y a 20 dedans. Hein, je ne sais pas si vous... Une romancière qui s'appelle Anne Lamott, qui est une romancière anglaise, non, américaine, pardon, chrétienne, en faisant référence à... Elle est un peu vieillie. Hein, en faisant référence aux choses parfois horribles qu'on peut faire, même si on est chrétien, ou penser, ou enfin, soit. Elle a dit, qu'est-ce que je fais avec ce genre de déclarations superficielles quant aux problèmes que nous avons, alors que moi, je peux faire parfois des choses qui pousseraient Jésus à boire du gin dans l'écuelle du chat. Je l'ai traduit de l'anglais comme je pouvais. Tellement que la bonne femme est désespérée. En disant tout ça, vous auriez dû penser que moi, j'ai un problème tous les dimanches quand je me tiens devant vous. Je m'explique. Si je confesse un sérieux... Et calmez-vous, pour l'instant, ça va. Hein, mais imaginons. Si je vous confessais d'ici un sérieux péché dans ma vie, la plupart, pas vous, parce que vous êtes adorables, je sais bien, et vous m'aimez très fort, vous avez intérêt, je serai ailleurs, dans beaucoup d'églises. Si je confesse un péché dans ma vie, on me coupe ma tête tout de suite. Je deviens indigne du ministère pastoral. Et c'est du vécu, les gars. Mais si, au bout du compte, je ne confesse que des petits péchés totalement insignifiants qui n'édifient personne et dont tout le monde se fout, en clair, alors là, les gens vont finir par se dire « ce gars est un hypocrite ». Donc, en ce moment, je peux éprouver le besoin de confesser quelque chose qui va me rendre vulnérable et honnête, mais en même temps, ce quelque chose ne doit pas être trop scandaleux parce que ça pourrait me coûter mon job. C'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle. On a fait beaucoup d'études sur le sujet, mes amis, mais je vais le dire comme ça, le plus simplement possible. Les relations, et c'est ce que Jésus vit dans son Église, les relations s'approfondissent lorsque les gens deviennent vrais, quand on apprend à avoir accès à la vraie personne en face de nous. Donc ça implique d'être honnête au sujet de ce que nous vivons. Alors il est clair que moi je vous souhaite de tout mon cœur de vivre par l'Esprit en permanence, à chaque seconde de vos vies, et de ne plus, comme le dit le texte biblique, ne plus broncher dans aucune circonstance. Nickel. Et vous seriez, si vous arrivez à faire ça, un saint, dans le sens strict du terme. Mais même dans ce cas-là, vous seriez encore un pécheur en rémission. Ceux qui ont vaincu des addictions, vaincu entre parenthèses, le savent très bien. Vous restez quand même en relation profonde avec votre ancienne addiction. Tous les psychiatres le disent. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Vous avez une fragilité à cet endroit-là. Et même si vous ne consommez plus jamais la substance en question, il n'empêche que toute votre vie, vous ne serez que ceci aussi. Donc nous pouvons même apprendre à obéir à Dieu, et je vous le souhaite, et à moi aussi, de la meilleure manière qui soit, vous resterez quand même un pécheur. Donc, pour que cette honnêteté se développe, il faut deux choses, de l'ouverture et de la confiance. Ça prend un temps fou, ça, en règle générale. Parce que, justement, l'ouverture et la confiance permettent quoi ? Permettent simplement de ne plus faire semblant. Parce que, et ça, on ne se rend pas compte spirituellement, tant qu'on fait semblant, l'Esprit Saint ne peut strictement pas s'exprimer. Il n'a pas de porte d'entrée pour pouvoir s'exprimer. Pour avoir lu quand même pas mal de livres écrits par des grands hommes de Dieu ou des grandes femmes de Dieu, ça existe, hein, même si elles aident. Et c'est souvent d'ailleurs à travers ces livres qu'on se rend compte que, moi, quand je lis ces livres, je me dis, mais ce gars ou cette femme, quelle intimité, quelle profondeur d'intimité avec Dieu. Mais il y a un truc qui revient à chaque fois, c'est que ces gens, quand ils expriment tout ça, ils ont un profond sentiment d'humilité et de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'ils vivent. Mais ce qui sort aussi de ces ouvrages, c'est que quand vous devenez vraiment intime avec Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher de devenir intime avec les autres. Parce que c'est ce que Jésus a enseigné. C'est déjà le premier, le grand commandement de l'Ancien Testament. Hein. Tu aimeras ton Dieu, tout ton esprit, de toute ta force, de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Donc si vous dites à Dieu, je t'aime, c'est très, il faut lui dire, hein, si c'est vrai. Je t'aime, c'est très bien. Il dit, mais c'est super chouchou, mais va aimer tes frères et sœurs aussi, hein, parce qu'autrement ça n'a pas beaucoup de sens. Il existe une très vieille et très incertaine histoire sur l'origine du mot « sincère ». Je sais bien qu'aujourd'hui, le vocabulaire diminue et que « sincère », c'est plus non plus un terme qu'on emploie souvent. Mais je pense qu'on a perdu, comme souvent avec le temps, hein, les siècles durant, passant plutôt, on a perdu le sens de certains termes. Les anciens Romains étaient très friands de statues grecques. En fait, les Romains, même s'ils ont un empire magnifique, ils ont tout pompé aux Grecs. Hein. Ils étaient admiratifs de la culture grecque. À l'époque des Romains, donc dans l'Empire, ou même avant, pendant la République, il y avait déjà des statues grecques réalisées par des artistes grecs qui avaient déjà des siècles et qui coûtaient un pont. Et les marchands qui vendaient ces statues avaient un souci, c'est que les acheteurs voulaient que les statues soient parfaites seulement avec le temps. Elles avaient été altérées, il y avait des coups dedans, etc. Je ne sais pas si vous savez, c'est pour ça que je vous explique l'élément central, l'origine de ce mot sincère, c'est que les marchands, pour vendre leurs statues au maximum du prix, ils prenaient de la cire et ils en remplissaient les endroits des statues où il y avait un coup dedans. Et au départ, l'illusion, parce qu'ils étaient quand même doués pour le faire, l'illusion était parfaite. On avait l'impression que la statue était nickel. Seulement avec le temps, la cire durcissait, elle devenait jaune. Et on commençait à voir les défauts de la statue. Donc pour vendre leur truc, les marchands qui n'avaient pas envie de frauder, les vendeurs qui n'avaient pas envie de vendre des statues avec de la cire, avait commencé, pour se distinguer des autres, à mettre un panneau sous les statues, sur les marchés, portant la mention « sine sera », sans cire. Et de là vient notre terme « sincère ».« Sine sera », sans artifice, sans fard, sans tromperie sur la marchandise. C'est ça que Jésus nous demande d'être dans nos rapports avec les autres. Donc, il y a un petit verset dans Acte 2, verset 46, donc il parle de la première église après la Pentecôte, où il est dit que les gens se réunissaient dans les maisons avec joie et sincérité de cœur. Ils ne faisaient donc pas semblant. Voilà d'ailleurs ce qu'écrit Paul à une de ses églises de l'époque. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Je pense qu'il ne faut pas avoir fait 20 ans de théologie pour comprendre le sens de cette phrase. Hein. Jésus nous a accueillis comme nous sommes. Hein. Si nous sommes en Christ, ben Paul dit, vous devez accueillir les autres comme Jésus vous a accueilli et vous accueille encore. Donc, le véritable accueil, ça va au-delà d'un vague sourire et une simple salutation. Donc, Jésus n'a pas dit, Jean, si tu tenais-toi un peu, si tu t'habillais un peu mieux et que tu lis la Bible plus souvent, alors et alors sûrement, je te laissais entrer dans ma famille. Il ne me semble pas qu'il ait dit ça. Alors, il est évident que l'objectif de notre Sauveur, c'est de faire de nous la meilleure version de nous-mêmes, la nouvelle version de nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que je dois faire semblant d'être cette version. Autrement dit, quand quelqu'un connaît, je vais le dire comme ça, l'humiliante et embarrassante vérité à mon sujet, et qu'il m'accepte quand même, cette acceptation commence à avoir un effet énergétique, dynamique en nous. Alors la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce qu'il y a ne fût-ce qu'une personne, pas deux, une personne, fait comme ça, qui vous connaît vraiment comme ça et qui vous accepte comme ça. C'est fondamental, hein, parce que même dans les couples, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Dans les couples, on est souvent dans l'illusion de ce que l'autre devrait être. Hein. Les filles, achetez-vous des lunettes. Et même si on cache les choses, hein, tôt ou tard, ça finira par se voir quand même. Parce qu'il est très difficile de cacher un baobab derrière un cure-dent. Hein. Vraiment, à un moment, ça, ce que vous êtes, en tout cas, ou ce que vous tentez de dissimuler, ça va se voir. Quelqu'un, et ça existe, hein, quelqu'un qui tire la gueule 24 heures sur 24, ça peut arriver de tirer la gueule, hein, mais quelqu'un qui tire la tête 24 heures sur 24, à un moment, on va se dire, la personne a un souci. Le fait de tirer la tête, ça n'est pas grave, ce qui est... Vous comprenez? Ce qui est important, c'est que cette attitude est plaquée devant quelque chose de plus profond. Et même quand on est souvent dans le clash, il y a des gens qui cherchent le clash dans la relation, c'est simplement parce que c'est un moyen de mettre l'autre à distance pour que justement la proximité ne devienne pas trop grande. Vous savez pourquoi on fait semblant, même sans s'en rendre compte la plupart du temps? Je pense à titre personnel, hein, je n'ai pas écrit un livre là-dessus, mais c'est quand on entretient des relations superficielles avec les autres, quand on joue un rôle, c'est comme au théâtre, on monte sur la scène pendant 2-3 heures, on joue un rôle, on joue le rôle de quelqu'un que nous ne sommes pas, et ça nous permet de ne plus penser à celui que nous sommes vraiment. Et ça nous fait du bien à ce moment-là. Ça nous évite de penser à nos vrais problèmes. Par contre, quand on essaye d'être vrai par rapport à ce que nous sommes, évidemment, ça va faire un peu plus mal parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a plein de choses qui font que ben, nous sommes fragiles à certains endroits. Mais ce contact petit à petit de mon vrai moi avec le vrai moi de l'autre va finir par être utilisé par le Saint-Esprit pour guérir et pour adoucir cette problématique. Donc, vous ne pouvez recevoir de l'amour. L'amour biblique, j'entends, hein, véritablement vécu comme le Christ l'entend. Vous ne pouvez recevoir de l'amour que dans la mesure où vous êtes connu de l'autre de cette manière-là. Autrement dit, je ne peux pas être pleinement aimé à moins d'être pleinement connu. Il faut forcément que j'ai un contact, moi, vous, que nous ayons des contacts dans tous nos rapports sociaux avec la véritable personne en face de nous. Être pleinement connu et pleinement aimé comme nous sommes est le plus grand cadeau et le plus grand début de guérison qu'un être humain puisse offrir à un autre. Pas pour rien que c'est un verset qu'on connaît, mais je l'ai déjà cité souvent, je sais, hein, mais c'est parce qu'il est tellement difficile à mettre en pratique. C'est pour ça qu'on le met jamais en pratique la plupart du temps. Quand Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris », il ne dit pas confessez vos péchés les uns aux autres et on va vous atomiser la tête. Hein. On va vous virer de l'église à coups de pompe dans les lattes. Ce n'est pas ça qu'il dit. Hein. C'est ce qui se passe souvent, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Confessez, pourquoi? Parce qu'on est tous en dessous de tout à certains moments. On est tous fragiles à côté de nos pompes. Donc, à un moment, il faut être capable. Et s'il y en a un qui est mieux dans sa vie, qui a été guéri de certaines choses, qui entend ce genre de confession, ben oui, ben on accueille. Parce que c'était moi qui étais comme ça, peut-être 1, 2 ans, 3 ans, 10 ans, peu importe. Et je peux redevenir comme ça dans 6 mois. Ça va tellement vite. Nous sommes tous pardonnés, si nous avons fait la paix avec Dieu par le Christ. Nous sommes tous des pécheurs en voie de guérison et en convalescence, et aucun d'entre nous ne peut être sécurisé dans une relation s'il est aimé uniquement parce qu'il est intelligent, mignon, beau, belle, fort, ou parce qu'il a réussi dans la vie. Parce que le péché a un élément sociologique terrible, c'est qu'il nous isole. Progressivement. Et l'isolement rend notre âme malade. Nous sommes des, comme le disait quelqu'un, nous sommes des, j'aime pas ce terme, mais enfin je le vais lire en main, comme le disait quelqu'un, nous sommes des animaux sociaux. Je crois que c'est Rousseau qui disait, l'homme est un animal social. Je pense que c'est Rousseau qui disait ça. Il faudra que je vérifie. Donc la confession dans le sens, pas dans la perspective catholique, hein, la confession, le fait de partager ses soucis, ou même de partager le fait que dans notre vie, on a un problème qui ne plaît pas à Dieu, ça permet d'établir une véritable connexion. Donc c'est moi, le Saint-Esprit en moi qui rentre en connexion avec l'âme de ce frère ou cette sœur qui a des problèmes. Avant d'être pasteur et d'enseigner moi-même, j'ai quand même pendant quelques années entendu l'enseignement des autres, et merci Seigneur pour tous les gens qui m'ont apporté quelque chose. Il faudrait un jour que je fasse une liste pour les remercier vraiment. Mais une chose qui m'a toujours frappé dans la façon dont beaucoup d'enseignants présentent les personnages bibliques ou les personnes qui peuplent le texte biblique. Ils ont une fâcheuse, pour la grande majorité d'entre eux, ils ont une fâcheuse tendance à mettre toutes ces personnes sur un piédestal. Abraham, quel grand homme de Dieu!
Bien sûr, il a fait de solides trucs, hein, Abraham.
Quand même, a été jusqu'à sacrifier son fils. Hein. On ne dit pas si. Peut-être qu'Isaac était une plaie à roulette, hein, ça, on ne le sait pas. Tu veux que je sacrifie mon fils? Quelle bonne idée, Seigneur! Je plaisante. Hein. Bon, Abraham, en mari, j'en cite une ou deux, hein, pas plus. Hein. Je ne veux pas non plus couler Abraham, ce n'est pas le but. Hein. Mais bien vous prendre conscience qu'il faut arrêter d'idéaliser ces gens parce que. Ce sont des références, bien sûr, à certains niveaux, mais tout n'allait pas bien dans leur vie. Hein. Ils n'ont pas été impeccables de bout en bout. Hein. Et ce n'est pas le but de ces textes de nous dire, prends l'exemple d'Abraham, il était merveilleux. C'était un homme qui a fait de très bonnes choses, et puis c'était un homme, quoi. Donc Abraham, en mari très attentionné, a dit au pharaon de son époque que Sarah, sa femme, était sa sœur, ce qui était un demi-mensonge ou une demi-vérité, puisque c'était sa demi-sœur. Merci Seigneur qu'aujourd'hui tu interdis les mariages avec sa sœur. Merci. Merci. Mais tout de même, en faisant ça, il fait quoi? Si ma femme est belle, le pharaon veut coucher avec, donc si je lui dis c'est ma femme, il va me couper ma tête. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il envoie sa femme coucher avec le pharaon. Quel homme bien, ça, Abraham, quand même. Hein? Hein? Oui, mais il y a le contexte de l'époque. Oui, on s'en fout, hein, le contexte de l'époque. Je pense que Dieu, il s'en tape, mais... Alors, Isaac et Rebecca. Ah là là, c'est des beaux prénoms, ça. Isaac et Rebecca. Ils ont pourri leur mariage par leur querelle au sujet de leur fils. Ils avaient deux fils, Ésaü et l'autre, Jacob. La maman adorait Jacob et le papa, il idolâtrait Ésaü. C'est super, hein? On ne sait pas grand-chose de Séphora. Culture biblique, hein, tu vois, je ne sais pas non plus. Hein. C'est pas grave, hein, faut pas... ne te flagelle pas pour ça, hein, mon ami. Ben, Séphora, c'est la femme de Moïse. On n'en parle pas beaucoup, et vu ce qu'elle sort quand on en parle, il vaut peut-être mieux. Hein? Après avoir circoncis elle-même son fils, hein? Elle a dit à Moïse, très en colère, « Tu es un époux de sang ». Alors comme ça, dans le texte, on dit « Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ?» On n'y comprend rien. Mais quand on gratte, elle ne l'appelle donc pas chéri ou en poussin, mais mon petit prépuce ensanglanté. C'est quand même, c'est de l'hébreu ça, c'est dans l'hébreu, hein? C'est quand même bizarre. David, j'ai dit, le grand roi David était un mari désastreux et son fils Salomon était pire encore. Si vous ne savez pas bien aimer une femme, je rappelle quand même que Salomon, si on additionne, il avait 500 concubines et 600 femmes ou l'inverse, donc ça fait quand même beaucoup de femmes. Si vous n'êtes déjà pas foutu d'en aimer une, essayez d'en aimer 1100, c'est de la folie furieuse. N'essayez surtout pas de faire ça. Hein. Lorsque la vie de Job a commencé à mal tourner, mais vraiment très mal, Madame Job lui a gentiment dit, écoute, envoie, je paraphrase le texte, hein, envoie Dieu promener et suscite-toi. Je suis en train de me dire que si quelqu'un pense au mariage, ce n'est pas un bon plan. Ce n'est pas toujours comme ça, hein. C'est parfois pire. Alors, dans les contes de fées, on en a tous lu, je pense, hein, la vie est une aventure terrible et difficile jusqu'à ce que vous soyez mariés. Rappelez, tous les Walt Disney terminent comme ça. Ils se marièrent et, attendez, il y a autre chose, hein, attendez, on oublie ça, mais c'est le plus important. Hein. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Et ils vécurent heureux. Donc là, déjà, un paradoxe dans la phrase. Hein. Vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est pas possible. Dès que vous avez des gosses, vous êtes dans la merde. Hein. Non, mais vraiment. Parce que si vous les aimez, vous allez vous inquiéter tout le temps. Donc c'est pas la définition du bonheur. Hein. Mais on dit pas comment le couple finit dans la vie quotidienne après. Vous savez, c'est pas moi, avec mon caractère, tuer un dragon, moi ça me pose. Enfin, essayez en tout cas, hein, on va être modeste. Hein. Et tuer un dragon, moi ça me botterait bien, hein, c'est dans mon caractère. Mais après, vivre avec une femme pendant toute ma vie et essayer de l'aimer comme elle doit être aimée, il n'y a pas un autre dragon à tuer, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, hein, faut être objectif.
Alors pourquoi est-ce que dans la Bible, on n'idéalise pas ni les rapports de couple, ni les rapports familiaux? Mais parce que le mariage, mes amis, ne sauve personne. Je suis célibataire, je veux me marier. Oui, on idéalise toujours la situation qu'on n'a pas. Hein. Et tous les hommes mariés disent « Pourquoi je ne suis plus célibataire ?» Et les femmes, même chose. Hein. Peut-être même les femmes se disent ça plus vite que les hommes dans un couple. Le mariage ne sauve personne, le couple ne sauve personne. Et vous savez quoi ? Il n'y a que le Christ qui sauve, c'est tout. Donc la Bible est remarquablement transparente au sujet des blessures et des faiblesses des mariages des personnages qu'elle relate. Et pourtant, très souvent, par exemple dans l'Église, des couples connaissent une silencieuse agonie sans jamais en parler, en même, peut-être mieux, en faisant semblant, j'en ai connu beaucoup. Ou alors il y a des enfants qui ont des problèmes ou qui tournent mal, enfin, voilà. Mais on n'en parle pas. Et une des raisons qu'ont certains chrétiens, dans mon expérience personnelle, pastorale, de cacher ce qu'ils vivent vraiment à ce niveau-là, c'est la peur de tomber de leur pied. Imaginez un pasteur qui est un gars qui fait bien son travail, qui est voilà, et il a des problèmes de couple terribles. Il ne pourra pas en parler. La plupart du temps, hein, il ne va pas pouvoir en parler. Parce qu'un pasteur doit avoir forcément montrer l'exemple. Moi, j'ai une sœur africaine, il y a des années, qui m'a dit, « Pasteur, tu n'as... » Excuse-moi pour l'accent, mais elle avait cet accent-là. Hein. Elle venait d'arriver sans doute. « Pasteur, tu n'as qu'un enfant, il faut en faire beaucoup plus. Si tu veux, je vais m'en occuper. » J'ai dit, « Ben ça, c'est une bonne raison pour que j'en fasse pas plus. Hein. » Donc, que se passerait-il si les couples devenaient, par exemple, aussi honnêtes que la Bible au sujet de leur mariage? Si nous brûlions nos piédestals, honnêtement, je pense qu'il faut faire ça. Le mieux en dernier, si c'est possible. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Ben, je pense qu'à la réflexion, j'ai résumé ça comme ça. Dans une communauté, à savoir l'Église, dont le lieu de rencontre est une croix, il n'y a pas de place pour un piédestal. Bonjour. Il n'y a pas de place pour ça. Pour terminer, je vais reprendre, je pense que j'ai fait allusion à ça il y a pas mal de temps. Mais je vais reprendre, certains d'entre vous ont peut-être encore ça à l'esprit. Essayez de synthétiser en fait le fait que dans la vie chrétienne, il y a des choses, ou dans la vie tout court d'ailleurs, il y a des choses qui peuvent mal tourner, qui peuvent mal se passer. C'est comme ça. Qu'il pleut, hein, comme le dit Jésus, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Rappelez de la courbe J, pour ceux qui se rappellent. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça la courbe J? Parce que c'est la forme d'un J, ça vous avez compris. Mais le principe qui découle, et je vais expliquer, hein, de cette courbe J, c'est celui-ci. Avant d'aller mieux, ça va vous faire peur peut-être, hein, les cocos, mais avant d'aller mieux, ça va toujours plus mal. Avant d'aller mieux, ça va toujours plus mal. Je vais prendre un exemple pas trop impliquant et qui ne fera pas de mal à qui que ce soit. Je joue au tennis. J'ai appris à jouer au tennis tout seul. Et j'estime qu'à un certain moment, mon tennis est de bonne qualité. Et puis je me dis quand même, comme j'ai envie de progresser, forcément, ça, j'ai envie de progresser, normal, hein, je vais suivre des cours de tennis. Et j'échange quelques balles avec le prof de tennis, et très vite il me dit, écoute, je pense que tu as un problème avec ton revers. Je dis, pardon. Oui, je pense que tu as un problème de positionnement quand tu frappes ton revers. J'écoute mon revers, tu ne dois déjà pas passer. Qu'est-ce que tu viens m'embêter avec mon revers? Et puis finalement, je me rends à ces arguments et je commence à travailler mon positionnement, les petits pas de placement, hein, la frappe, etc. Je vais me faire mal au dos. Tout ce qu'il faut pour bien frapper son revers. Mais la conséquence directe d'apprendre à bien frapper mon revers, c'est que cette balle ne va plus passer le filet pendant un certain temps. Donc, mon revers sera plus mauvais qu'avant. Ça, mon revers, il va aller plus mal qu'avant. Mais une fois que l'expérience, le temps et l'implication et l'entraînement vont faire leur œuvre, ce revers va commencer à passer le filet. Et je vais commencer à le mettre un peu où je veux, à le frapper de plus en plus fort, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc quand je vais chez le prof de tennis et qu'il me dit « Ton revers est une catastrophe, il va falloir retravailler », je suis là. Et quand je travaille le revers, je suis dans cette courbe-là. C'est pour ça que c'est une courbe descendante, la courbe descendante de mon J. Une fois que ça commence à rentrer, ça se stabilise, et une fois que j'ai travaillé pour, mon revers, il devient meilleur et meilleur et meilleur. Mais au départ, mes amis, jouer au tennis, ça m'embête plus qu'avant, parce que la balle ne passe plus le filet. Hein. Vous avez compris, c'est clair ? ils vont tous se mettre au tennis pour me prouver qu'ils ont compris. Donc, si je prends un exemple, il y en a d'autres, hein, pour encore une fois désidéaliser les grands personnages bibliques. Lorsque Pierre, le pauvre, le nombre de messages négatifs qu'on a fait sur lui, le pauvre, lorsque Pierre a pour la première fois exercé sa foi en sortant du bateau durant la tempête, vous vous rappelez, hein? Alors, très peu de gens se rappellent les trois premiers pas qu'il a fait sur l'eau. Tout le monde se rappelle, et les autres qui sont restés dans la barque surtout, tout le monde se rappelle qu'il a enfoncé. En fait, il a fait glouglou après, parce qu'il a commencé à paniquer. Il a détourné son regard de Jésus. Mais les premiers qui se sont marrés en disant « Pierre, à nouveau, t'as vu, il a voulu se montrer », ce sont ceux qui sont restés dans la barque. Lorsqu'il a tenté de défendre Jésus, quand on est venu l'arrêter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dégainé une épée, il a coupé l'oreille d'un garde qui venait arrêter Jésus. Lorsqu'il a promis d'être loyal avec Jésus, il a vu sa foi s'effondrer. Lorsqu'il a essayé d'encourager Jésus, Jésus lui a reproché de se faire l'avocat du diable. Autrement dit, pour découvrir qui il était vraiment et ce qu'il fallait corriger, il a dû sortir ce qu'il y avait de pire en lui. J'aurais dû modérer ce que je viens de dire. Ça risque d'être pas triste dans les semaines qui viennent. Mais ce que je veux relever en prenant l'exemple de Pierre, ce n'est pas spécialement Pierre, hein, c'est que Jésus ne s'est jamais découragé. En fait, Jésus a été si patient avec ses disciples et il est si patient avec nous que cette courbe J, bah, puisqu'il s'appelle Jésus, ça tombe bien, on peut bien l'appeler la courbe Jésus. Hein. Parce que vous ne pourrez jamais rien lui dire ou rien faire ou penser quelque chose qui va le détourner de vous. Jamais. Ce n'est pas possible. Il sait très bien. Il sait très bien. Donc, la direction qu'emprunte Dieu dans nos vies, c'est toujours une direction de croissance, mais la croissance comporte toujours un risque. Et le risque signifie toujours possibilité d'échec. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne s'arrête jamais en cours de route quand nous échouons, nous relève, etc. Parce que c'est le chemin, tant qu'on est ici, c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Donc aucun, le Saint-Esprit n'abandonne jamais aucun de ses étudiants sous prétexte qu'il ou qu'elle a échoué. D'ailleurs, si vous n'avez jamais essayé quelque chose, votre tentative initiale sera probablement peu convaincante. C'est toujours comme ça, quand on commence ou on tente quelque chose au début, ben, on est loin d'être ce qu'on pourrait être. Par exemple, pour être pratique, si vous n'avez que très rarement encouragé des gens quand ils avaient des problèmes, parce que ça ne vous vient pas, parce que vous vous sentez inutile, incompétent, que sais-je encore. Donc tant que vous n'avez pas essayé, il est probable que vos premières tentatives seront un peu maladroites. Forcément. Si vous n'avez jamais partagé votre foi avec quelqu'un, les premiers essais risquent fort aussi d'être peu convaincants. Donc, dans la pensée de Dieu, l'échec, ce n'est pas d'échouer. L'échec, ce serait de ne pas essayer. Et l'échec, ça fait partie de la vie. Enfin, on a tous été à l'école. Hein. Bon, je ne parle pas pour les élèves brillants qui sortaient avec des grandes 10. Hein. Ça, ceux-là, forcément, c'est autre chose. Mais... Donc, nous devrions donc apprendre à, entre guillemets, hein, célébrer l'échec dans l'Église, parce que ça veut dire au moins qu'on essaye. Donc, être humain signifie être honnête à propos de ce que nous voulons, à propos de ce que nous sommes, et apprendre à enlever ce vernis. Cette superficialité, ce masque qu'on met souvent entre nous et les autres pour nous faire passer ou paraître pour quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Je termine par une petite histoire. Il paraît que c'est une histoire vraie. Il y a un petit garçon qui rentre un jour chez lui avec un rat dans la main. Ça, c'est ce qu'attendent toutes les mamans du monde, hein, c'est que le gamin rentre avec un rat. Il entre dans la cuisine, mais il n'a pas remarqué que sa maman reçoit la visite du pasteur. Et d'habitude, quand le pasteur va venir, on planque les bouteilles, la télé et les rats. C'était du vécu, ça. Vous entendez... Enfin, les visiter à l'improviste. Hein. Ce que moi, je ne fais jamais, donc rassurez-vous, je ne visite jamais personne à l'improviste. Donc, le gamin ne voit pas le pasteur. Donc, il rentre dans la cuisine avec son rat. On peut imaginer l'image. Moi, je trouve ça assez comique, mais bon. Il dit, maman, j'ai vu un rat... Et je lui ai lancé un caillou et je l'ai assommé du premier coup. Et le gamin est tout content. Enfin, c'était un fils, quoi. Vous n'avez pas ça avec des filles. Hein. Quoique. Alors, je l'ai pris dans ma main et je l'ai lancé de toutes mes forces contre le mur. Enfin, c'est un garçon, encore une fois. Puis, enfin, c'est très drôle. Oui. C'était un test. Hein. C'était un piège, j'ai tombé dedans. Donc, c'était donc toi. J'ai sauté dessus à pieds joints. Et puis, je l'ai repris en main. Le gars est persévérant, hein, Courbegie. Hein, et je l'ai retapé encore une fois dans le mur. Et c'est à ce moment-là que le gamin voit le pasteur. Le pasteur qui est un pasteur protestant, très strict, et qui regarde le gamin d'un regard méchant. C'est un regard pastoral, quoi. Et c'est alors que le... Il paraît que c'est vrai, hein, mais j'y étais pas. C'est alors que le petit lève le rat vers le ciel, prend une attitude qu'il a vue à l'église, sans doute, et dit « Mais c'est alors que notre cher Seigneur a rappelé le rat auprès de lui. » Il était lui-même, et c'est terrible, hein, ça. Il y a une figure spirituelle qui rentre dans l'équation et il arrête d'être lui-même et il fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Si un jour un de vos gamins rentre avec un rat, il faut quand même foutre une paire de claques, hein, parce que ça, c'est quand même... Voilà. Donc, bon, cette petite histoire vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'il y a un principe en règle générale à en tirer. Chaque fois que nous essayons de paraître spirituel, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en termes d'humanité de plus en plus loin, ou nous nous éloignons de ce que Jésus entend. Le Christ, avant de nous diviniser le jour où on sera à l'étage, hein, si je leur dis ça comme ça, il est surtout venu nous apprendre ce que c'est qu'être un être humain en relation profonde avec Dieu, et ce que c'est que d'être un véritable être humain, devenir véritablement un homme, ou une femme, hein, soyons inclusifs, bien sûr. Donc je le répète ça, faire semblant, et parfois c'est inconscient, hein, ça nous coupe de la possibilité qu'a l'Esprit Saint de travailler véritablement sur nos vrais problèmes, nos vraies blessures, nos vraies fractures. Quand j'étais jeune et beau, dans la vie spirituelle, hein, j'entends, j'ai fait une première visite avec, parce que c'était comme ça que ça marchait, hein, c'est un peu une sorte de stage, j'ai fait une visite pastorale avec un collègue. On était voir une dame qui avait de gros problèmes. Donc cette personne commence très vite et très énervée à nous parler de son ancien petit ami qui l'a abusé. Je vous résume le truc très sympa. Hein. Qui l'a abusé, violenté, volé, spolié et finalement abandonné. Elle ajoute « J'ai appris qu'il avait un cancer. » Je cite toujours « Je suis bien contente qu'il crève. » Alors moi j'étais là, « Ouais, allez, on est dans le dur, c'est bon. » Mon collègue, « Mon Dieu, mais vous ne pouvez pas dire ça. » Ah non, elle ne peut pas dire ça. Pourquoi? C'est ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle ressent? Je ne dis pas que c'est bien de rester là-dedans, parce que c'est elle qui va se détruire. Mais on a besoin de cette réalité des choses. Hein. Et non, vous devez prier pour lui. Bénis-le, Seigneur. Oui, oui, oui. Ah, je ne dis pas que ce n'est pas le bout du chemin, ça. Mais on n'y est pas le bout du chemin. Elle est en train, parce qu'elle dit, on est au début du chemin. Et cette... extériorisation de ce qu'elle pense véritablement en termes de ressenti personnel, ce ressenti est indispensable pour qu'on puisse en faire quelque chose. Ça ne vous est jamais arrivé d'être un peu perplexe quand vous lisez les psaumes, par exemple, ou un psaume, entre ce clash apparent de toute cette... Ils sont quand même... ils y vont, hein, quand ils disent quelque chose à Dieu. Hein. « Tue-les, massacre-les... Voilà, je les hais. Ah oui, ouais, moi je sais bien. En hébreu, il n'y a pas de comparatif ni de superlatif. Donc c'est vrai que, voilà, haïr, il faut faire attention quand dans l'hébreu ancien, on voit le terme haïr. Hein, ça ne fonctionne pas trop comme le verbe haïr en français. Mais il n'empêche qu'il y a cette liberté de dire. Et après, c'est vrai que souvent, on sent un adoucissement et que Dieu reprend un peu le contrôle des choses. Mais au début, on ouvre les égouts. Hein, parce qu'il faut. Hein, si je ne peux pas ouvrir les. Je parle des miens, là. Si je ne peux pas ouvrir la vanne devant Dieu, je vais faire. Quelqu'un à qui. De toute façon, je ne dois rien cacher ici et tout. Je vais le faire devant qui? Après, je le ferai devant vous. Quel privilège. Hein. Donc, si il existait une église dans laquelle je puisse être simplement ce que je suis, à chaque étape. S'il existe une communauté où je puisse amener tous mes bagages avec moi Et toutes mes blessures n'ont encore cicatrisé, tout ce que je suis en fait. S'il existait un groupe dans lequel chacun pourrait être aimé, et personne ne serait plus poussé à faire semblant. Je pense vraiment, je peux me tromper, mais je pense que cette communauté devrait très vite casser les murs. Parce que c'est de ça que le monde a besoin. Et si, je ne sais plus qui a dit ça il n'y a pas tellement longtemps, si aujourd'hui ça a changé, nous sommes dans une société postmoderne, plus moderne, si aujourd'hui on se convertit à l'Église avant de se convertir au Christ, alors je pense qu'il faut que nous réfléchissions, me semble-t-il. Alors je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le chemin le plus facile, autrement tout le monde le prendrait. Mais le chemin à prendre, c'est souvent, pour Dieu, le chemin que Dieu nous demande de prendre, c'est justement souvent celui qui nous semble le plus difficile. En tout cas, ce genre de communauté doit exister, elle existe, il y a des communautés comme ça. En tout cas, j'espère, à titre personnel, j'espère que c'est d'autres cas aussi, que la nôtre en fera partie. Je ne dis pas qu'on n'est pas sur le chemin, je dis qu'il y a encore du travail. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.